On aime bien aborder des sujets légers, des idées d'activités touristiques, de visites, de toutes sortes. Mais on aime bien aussi, à un moment donné, revenir sur des choses un petit peu plus sérieuses. Et Dieu sait si le sujet que l'on va maintenant évoquer en est un. Il s'agit de la commission sur les soins de fin de vie, une commission sur laquelle siège notamment Jean Lambert. Bonjour, Monsieur Lambert.
Oui, bonjour.
Qui est en studio avec nous, Monsieur Lambert. Je voudrais préciser que vous êtes l'ex-président de la Chambre des notaires, un
Oui.
ex-président de la Chambre des notaires. Très gentiment,
Tout à fait.
vous avez accepté de venir en studio pour qu'on parle ensemble et qu'on fasse un survol de cette loi sur les soins de fin de vie.
Malheureusement, lorsque le gouvernement du Québec a adopté cette loi à la fin de juin 2014, il avait prévu des budgets d'information assez importants, passés à notre goût, mais quand même. Et malheureusement, aucun de ces budgets n'a été utilisé. Donc, les campagnes de formation visant le public sur les divers aspects de cette loi-là, ben, elles n'ont tout simplement pas eu lieu. Et alors, ça explique un peu là, tout ce qu'on a vu dans les médias depuis un an et demi. Les gens posent des questions, n'ont pas tout à fait des réponses précises. Alors, évidemment, je me fais fort, moi, comme membre de la commission, remarquer que j'agis plutôt à titre privé et non pas, je ne parle pas du tout au nom de la commission.
Non,
c'est
ça,
très
je peux
important.
Comprendre, bien
Mais
sûr.
comme j'ai été un acteur dès le départ dans la commission Mourir dans la dignité, là, qui a fait le tour du Québec, par la suite, les travaux en commission parlementaire, je représentais évidemment à ce moment-là le point de vue de la Chambre des notaires. C'est un sujet que je connais bien, puisque pendant mes études universitaires, j'étais aide-infirmier à l'hôpital Notre-Dame-des-Merci, dans le nord de Montréal. Donc, c'est un milieu, c'est une question qui m'a poursuivi pendant toute ma carrière. Alors voilà, ça vous situe. Alors donc, parlons de cette loi.
Alors parlons de cette loi. Je vous appelle comment? Monsieur Lambert,
oui,
maître?
Oui, oui. Non,
Jean,
ça,
non,
laisse,
non,
on laisse tomber, ça fait lourd.
On laisse tomber, ça fait lourd.
Oui.
Bon, alors, Monsieur Lambert, allons-y comme ça, ou Jean, tenez. Quand on parle d'objectif de la loi, l'objectif général, principal, quel est-il?
Alors, c'est celui d'assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie. Et le mot-clé ici, c'est évidemment autonomie pour le juriste que je suis, mais pour tout le monde aussi, c'est la dignité, c'est intimement lié. Alors, on va voir que ça se transpose dans les différents objectifs que l'on va décliner tantôt. Il y en a quatre sous cet objectif général.
Alors, quand on dit fin de vie, à quel moment? C'est quand?
Alors, voilà, c'est la question.
C'est ça.
Hein? Tout le monde s'interroge et la raison, c'est que le législateur, sciemment, n'a pas voulu la définir dans la loi. Il a laissé, dans le fond, au corps médical le soin d'en décider au cas par cas. Alors, ça cause certainement une difficulté parce que les gens aimeraient bien à savoir de A à B ou de A à X ou A à Z où ça se situe. Alors, on peut dire que, on va se rabattre sur des définitions qui existent. Alors, tout d'abord, en France, l'Observatoire national sur la fin de vie le définit ici. C'est un processus plus ou moins long, ponctué de ruptures, au cours duquel les individus tentent plus ou moins aisément de faire face à la mort. Le dictionnaire des internautes, plus précisément, plus concisément, période de la fin de la vie d'une personne où la mort est très proche, et où des soins palliatifs sont engagés. Bon. Et celui de l'Institut canadien d'information sur la santé, l'ICIS, alors qui est probablement la référence. Alors, toute personne en fin de vie est celle dont l'état de santé décline et qui est considérée comme étant en phase terminale ou susceptible de décéder dans un avenir prévisible. Alors, donc, on joue avec ça. Et évidemment, il y a tout un débat avec la loi fédérale qui, elle, parle de mort raisonnablement prévisible.
Raisonnablement prévisible.
Alors, donc, qu'en est-il? Alors, on voit ici, finalement, que c'est au médecin, finalement, d'en décider. Mais ça cause tout le débat qu'on connaît actuellement.
Alors, on peut peut-être revenir sur les quatre objectifs que vous avez évoqués
Bien sûr,
le
premier, c'est d'assurer à toute personne, peu importe sa condition et l'endroit où elle réside sur le territoire, d'avoir accès à des soins palliatifs complets, des soins de qualité adaptés à ses besoins. Donc, dans un but de prévenir et d'apaiser les souffrances. Mm-hmm. Donc, on retrouve ici les tout premiers articles D'accord. de la loi. Et le second, c'est mm-hmm. officialiser et encadrer la sédation palliative continue. Alors, on peut peut-être se demander un petit peu qu'est-ce que c'est.
Qu'est-ce que c'est, bien
ben
sûr.
Oui. Mais... Alors, c'est un état d'inconscience continue qui est provoqué oui. par des médicaments ou des substances. Mm. Et ce, jusqu'à la mort.
Ce qu'on appelle un coma provoqué.
Oui. Alors, ça se faisait un peu ici et là autrefois. Il n'y avait pas d'encadrement précis. Alors, la loi a voulu donc encadrer cette sédation. Et c'est un moyen alternatif à l'aide médicale pour mourir. Donc, une personne, plutôt que de requérir une mort tel jour, telle heure, oui. dit tout simplement « plongez-moi dans un coma ». Et la maladie suivra son cours, je décéderai sans, dans le fond, m'en rendre compte. Et sans souffrir, évidemment.
D'accord, bien sûr. Bon, l'aide médicale à mourir, elle se situe où?
Alors, c'est la pièce de résistance, c'est le troisième objectif. C'est évidemment l'aspect qui distingue le plus le Québec dans son état d'avant-gardisme au Canada. Donc, l'aide médicale à mourir, et il faut comprendre que le contexte dans lequel oui. la loi était adoptée à l'époque, on n'avait pas le jugement Carter qui a fait volte-face, donc 180 degrés par rapport à la décision d'une vingtaine d'années avant avec l'affaire Sourde-Gaise, et qui maintenant permet, a décriminalisé jusqu'à un certain point l'aide médicale à mourir. Mais à l'époque où la loi québécoise est adoptée, ce jugement-là n'était pas là. Et la loi fédérale modifiant le code criminel, évidemment pas. Donc, il fallait protéger, dans le fond, les médecins et les gens qui allaient prodiguer, administrer cette aide médicale. Et on a situé ça dans un continuum de soins. Donc, une personne est en établissement ou dans une maison spécialisée ou même à domicile est traitée pour soulager ses souffrances. Et à un moment donné, on se pose la question, quel est le meilleur soin à lui offrir oui. pour mettre fin à ses souffrances, donc en mettant fin à sa vie. Alors, on situe ça dans ce contexte-là.
Ça comme ça. Je vous propose, Monsieur Lambert, de rester avec nous, parce que voyez-vous, dans 30 secondes de là, il y a ce qu'on appelle des autopromos qui vont partir. Mais en principe, cela clôt notre... Mais il nous reste encore un quatrième objectif à voir avec vous. Je vous propose de vous retrouver tout de suite après ces auto-promotions. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Aime l'été, animé par Clotilde Seille, avec ses nombreux invités, soit en studio, soit par téléphone. Restez des nôtres. C'est absolument passionnant la façon dont M. Jean Lambert nous présente ce projet de loi Mourir dans la dignité sur lequel il siège. Merci. Alors, c'est Clotilde Seille qui vous revient en compagnie de son invité, Jean Lambert. Je rappelle que M. Lambert siège à la Commission sur les soins de fin de vie, mourir dans la dignité. Il nous restait un point à apporter, M. Lambert. Avant, je voudrais préciser à nos auditeurs qui ont peut-être trouvé qu'on survolait ça très rapidement, mais aujourd'hui, c'était le but de la chose, un survol. Mais vous allez revenir tout au long
Bien
de
oui,
cette saison.
Oui, aujourd'hui, on met la table.
On met la table, voilà. Et lorsque vous allez revenir, on va approfondir chacun de ces points-là, et notamment le dernier, le fameux quatrième objectif. Quel est-il?
Les directives médicales anticipées, c'est probablement dans la loi l'aspect le plus ouvert au public, à tout le monde, parce qu'on invite chacun à rédiger ces directives médicales anticipées. Entendons-nous, il ne s'agit pas d'y aller avec toutes sortes de désirs. Mm-hmm. C'est très encadré. Il y a un formulaire, soit notarié, si on le fait avec son notaire, ou un formulaire qu'on obtient de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et donc, ça permet à une personne de dire dans trois cadres précis, on y reviendra d'ailleurs plus attentivement, dans trois cadres, trois situations bien précises. Par exemple, si elle accepte ou refuse la réanimation cardiovasculaire, la ventilation assistée, donc un respirateur, l'alimentation forcée ou artificielle, la dialyse ou pas, ou encore l'hydratation forcée ou artificielle. Donc, on consacre ici ce que le Code civil disait déjà, que on ne peut pas soumettre une personne à des soins et des traitements sans son consentement. Donc, on consacre le droit au refus.
D'accord.
Peu importe que ce refus entraîne la mort, et ça, c'est reconnu par les tribunaux. Alors donc, c'est très important. Et dans l'émission où on verra ce sujet-là en détail,
d'accord,
on voit que ça permet aux gens donc de manifester leur volonté et ça oblige. C'est ce qui est différent par rapport, par exemple, à des directives dans un soi-disant testament biologique ou encore dans un mandat en prévision de l'inaptitude. Dans ce cas-ci, le corps médical est obligé de respecter ces directives.
J'ai très hâte de vous revoir à l'émission, Jean Lambert, pour que nous approfondissions ce sujet. Oui, sujet qui peut sembler douloureux, mais que justement on essaie par tous les moyens de rendre un peu plus léger à certains.
Un
vous
peu
en
plus
conviendrez.
Digeste,
un
oui.
peu plus digeste, voilà. Jean Lambert, merci beaucoup.
C'était mon plaisir.
Bonne fin de journée, merci.